m'avez manqué.
Je vais ce soir vous faire désirer et aimer la République.
La bête de l'événement est là.
La République, c'est moi.
Je vous demande de vous arrêter.
Non, il ne faut pas tomber dans un extrémisme extrême.
Non, je le dis avec courtoisie, bien sûr.
Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin.
Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali, excusez-les.
Jeanne, au secours.
Voilà, bah c'était un peu l'envie de vomir sur ces ordures. Enfin, pardon.
Vous êtes sur Radio Courtoisie.
Bonjour chers auditeurs, heureux de vous retrouver en compagnie de toute l'équipe de Restons Courtois du vendredi soir, 17h30, 19h30, émission réalisée en partenariat avec Boulevard Voltaire, le grand quotidien de la France droite. C'est parti pour 2 heures avec ce soir mes 3 voix d'exception pour observer l'envers de l'actualité de notre cher et vieux pays, vous connaissez la formule. Philippe Charlès est là, expert en questions énergétiques, bonsoir Philippe.
Bonsoir Marc, bonsoir chers auditeurs.
Gérard Gachet. Là aussi, journaliste, ancien porte-parole des ministères de l'Intérieur et de la Défense. Et aujourd'hui, porte-parole de la vérité. Oh là, bonsoir Gérard.
Merci, bonsoir.
Yves-Marie Sevilla, notre précieux journaliste politique à Boulevard Voltaire et vénérable alloncologue.
Hein, on peut dire ça comme ça.
Voilà, hein, donc un spécialiste de Charles Alloncle. Vous pouvez, chers auditeurs, nous appeler au 01 46 51 00 85 ou nous envoyer vos courriels à courtoisie@rc.fr. On les lira à l'antenne dans toute la mesure du possible. Si vous le savez, vous êtes comme d'habitude, comme chez vous, et très bienvenue au programme ce soir. Un petit édito, si vous le permettez, après le rapport à l'oncle, justement, que faut-il changer dans l'audiovisuel public? En première partie, notre plat de résistance, ça sera face à notre ami l'Algérie. L'Union européenne doit-elle agir? Et nous recevrons Nicolas Bay, député européen, vice-président du groupe conservateur et réformiste au Parlement européen et vice-président de la délégation à l'Assemblée parlementaire Afrique-Union européenne. Voilà, il sera avec nous. L'inconscience de la gauche, ce sera notre deuxième partie. Arrow sur un fleuron français, le groupe Total. Nous en parlerons notamment avec Philippe Charlès, que je vous ai présenté à l'instant.
Je rectifie tout de suite, ce n'est plus Total, on ne le dit pas, c'est Total Énergie.
Oui, enfin, Total Énergie, c'est Total, non?
Non, le nom du groupe, c'est maintenant, éternel. C'est Total Énergie.
C'est éternel, Total, Philippe Charlès. Bon, mais très bien, on fera un effort. Alors, auparavant, notre traditionnel tour d'actualité. Qu'avez-vous retenu de l'actualité de cette semaine?
Philippe Charlès. J'y vais, ben moi, c'est les...
Jetez-vous à l'eau.
Comment dirais-je? Donc, on est en demi-finale de la Ligue des Champions et on a déjà des soirées très chaudes et très animées. Donc ouais. J'avoue que moi j'habite dans l'8e arrondissement, pas très loin des Champs-Élysées. Je crains avec beaucoup d'appréhension la finale qui a lieu, si je ne m'abuse, le 30 mai. Hein, voilà. Oui, elle est à Budapest, mais ça, je ne crains pas Budapest. Je crains Paris.
L'intervention de Nicolas Bay qui est déjà parmi nous.
Je crains Paris et les hordes de... Alors, je ne sais pas si vous avez vu, donc les...
Et pourtant, vous n'habitez pas à Garges-lès-Gonesse.
Non.
Et
ce que j'ai vu... Alors, dans ma rue, il n'y a pas eu trop de troubles. Mais enfin, d'après ce que j'ai vu, les Norvégiens aux yeux bleus étaient encore descendus en masse dans Paris pour fêter cette victoire.
Voilà. Absolument. Les Matteo, et comment avait dit Darmanin?
Kevin et Matteo,
étaient de sortie. Gérard Gachet.
Et les mêmes Kevin et Matteo, donc le même soir, avant-hier, s'en sont pris notamment, enfin ça a cassé un peu partout, Porte de Saint-Cloud, Trocadéro, et à la Concorde, ils ont gentiment dévasté une exposition de photos.
On ne s'est pas concerté. Pourtant, là, vous prenez leur lait d'une façon absolument remarquable.
Une exposition, merci cher confrère, une exposition
ils
de photos
congratule les uns les autres,
organisée par la mairie de Paris avec des photos de Yann Arthus-Bertrand, le célèbre écologiste, photographe, etc. Et des photos qui avaient justement pour thème, une exposition qui avait pour thème « Le vivre ensemble », pour employer une formule bien connue. Oui. Bah, les bénéficiaires de cette exposition, si j'ose dire, n'ont pas apprécié ça plus que d'autres, puisqu'ils ont tout cassé. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que Yann Arthus-Bertrand, après s'être quand même désolé le matin de retrouver son exposition par terre, comme il a fait un appel et que des gens sont venus l'aider à remettre l'exposition à peu près en état, il est finalement, c'est presque un beau cadeau que m'ont fait ces gens, car ils ont pu montrer que le vivre ensemble, ça existe. Il faut comprendre et pardonner, a-t-il dit. Ouais. Ben moi, ça m'a rappelé quelque chose. Ça m'a rappelé un des personnages du Camp des Saints, l'ouvrage de référence qui a plus besoin de présenter, de Jean Raspail. Celui d'un philosophe qui s'appelle Balland, philosophe athée qui disparaît assez vite au début. Mais au début, il est là, et au moment où les foules du tiers-monde embarquent à Calcutta pour cingler vers l'Europe, eh bien, il est là pour essayer de les encourager, de les accompagner, de les assister, etc. Et puis, au moment où il monte à bord du premier navire, il veut monter avec eux, etc. Et là, il est rejeté, parce que tout philosophe humaniste qu'il est, il est blanc, et il appartient malgré tout à l'accident. Il le rejette, il tombe à l'eau, et il se noie au pied du bateau qui va partir. Mais lui aussi, en comprenant et en pardonnant, comme Yann Arthus Bertrand. Donc vraiment, ça m'a permis de me replonger un petit peu dans le Camp des Saints. Je ne l'avais pas lu depuis très très longtemps, mais c'est toujours aussi frappant.
Il y a un autre écrivain qu'on pourrait citer.
Il a transformé, pour reprendre un terme de rugbyman, il a transformé l'essai d'une façon vraiment magistrale.
Absolument.
Oui, absolument.
C'est quand même soumission pour citer un autre écrivain.
Moi, je m'apprêtais...
C'est terrible. Yves-Marie Sevilla, vous aviez relevé aussi le match?
Parce que je m'apprêtais à en parler en fin d'émission. Je m'étais dit qu'en beau clin d'œil culture, ça pourrait être intéressant de se rendre à la place de la Concorde pour voir de ses yeux véritablement l'exposition mise en avant par Yann Arthus Bertrand et qui a été saccagée par le vivre ensemble, comme l'a si bien dit Gérard.
Absolument.
Pardon d'avoir pris le sujet.
Voilà, donc vous aviez en fait tous les trois le même sujet. Alors moi j'en avais prévu un, mais j'ai changé finalement en cours de route parce que dans ma voiture je me suis dit on va pas parler du 8 mai. Et le 8 mai 45, donc aujourd'hui, le jour où on vous parle, c'est quand même une grande date à la fois pour la France et pour l'Europe. C'est la victoire des armées, notamment des armées françaises, plusieurs armées françaises. Moi, j'avais un grand-père officier sur le front, et il y a beaucoup, beaucoup de Français qui ont laissé des morts dans ce combat. Dans tous les monuments aux morts français, évidemment, les morts de la guerre de 14 sont très importants en nombre, mais il y a toujours, dans la moindre petite commune, plusieurs, 3, 5, 10, parfois beaucoup plus, même dans les petites communes rurales, de morts de Français qui ont donné leur vie pour la libération du pays, et je pense évidemment à toutes ces familles qui ont été soulagées le 8 mai 45, après cinq années évidemment très difficiles. Et c'est quand même une leçon de patriotisme. Il faut inviter nos auditeurs à emmener leurs enfants, leurs petits-enfants, lors des cérémonies du 8 mai 45, parce que c'est vraiment un moment où on célèbre la France et le sacrifice de ceux qui ont donné leur vie, parfois, pour qu'elle perdure. C'est aussi une leçon de politique contemporaine, me semble-t-il.
Je ferai une petite remarque de ce côté-là, que j'ai été étonné de voir qu'aujourd'hui, comparé au 1er mai, tout était ouvert. Et là, ça ne gêne manifestement personne. Ce que je veux dire, c'est que... moi qui habite dans Paris-Centre, je ne voyais pas la différence pratiquement avec une journée d'activité normale, alors que tout était fermé le 1er mai. Aujourd'hui, tous les commerces étaient ouverts.
Ouais, c'est vrai que
le 8 mai n'était plus chômé à une époque. Non. D'ailleurs, même le général de Gaulle avait arrêté de faire du 8 mai un jour chômé.
Mais dans les entreprises, c'est toujours un jour férié, en tout cas.
Oui, férié, mais pas forcément chômé.
Bon, en tout cas, la gauche ne s'en est pas émue, c'est vrai.
Ça, c'est...
C'est un constat. Nicolas Bay, le 8 mai... Grande date quand même,
je pense,
de France.
Dans toutes les dates de commémoration des guerres, on se rappelle finalement du sacrifice de nos ancêtres, et ça nous rappelle à quel point la France, pour être un grand pays libre, a fait des sacrifices absolument immenses, et c'est ça qui nous oblige. Des gens ont versé leur sang, nos aïeux sont morts par millions, première et deuxième guerre mondiale, mais même dans une histoire plus ancienne. Et ça rend d'ailleurs d'autant plus insupportable les discours qu'on entend souvent de ceux qui nous disent « Mais finalement, la France, c'est trop petit, c'est dépassé, il faut voir à plus grande échelle, il n'y a pas de culture française », nous disait Emmanuel Macron au début de son premier quinquennat. Voilà, tous ces discours sont d'autant plus odieux quand on sait que pour qu'il y ait une culture française, pour qu'il y ait une France qui ait son identité, pour qu'il y ait un peuple français qui vive libre, eh bien, il y en a beaucoup qui sont morts.
Absolument, ne l'oublions pas. Yves-Marie Sévillan.
Oui, ce n'était pas pour réagir sur le 8 mai, c'est que mon fait d'actualité n'était pas l'exposition Yann Arthus Bertrand.
Ah.
Je voulais évoquer l'idée que, en clin d'œil, je m'apprêtais à en parler en fin d'émission pour l'événement culturel.
Ah, donc vous avez un fait d'actualité, c'est
oui,
ça
oui, absolument. Je voulais évoquer avec vous, parce que notamment vous parlez du 8 mai et des commémorations de 45. Non, l'initiative du maire Christophe Barthès à Carcassonne, qui a réinstallé une statue de Jeanne d'Arc sur le parvis de la cathédrale de la ville, de la cité médiévale, donc finalement au cœur de la ville, statue qui avait été déplacée pour des raisons diverses de travaux, mais qui avait été gentiment laissée de côté par le pouvoir
socialiste. Ils avaient oublié de la réinstaller.
Absolument, et donc de manière tout à fait ostensible, marquante, Christophe Barthès, nouveau maire Rassemblement National donc de Carcassonne, a décidé de la mettre en avant, de la restaurer, donc avec ce qui va avec, et notamment il convie les Carcassonnais à une grande fête du patriotisme et de Jeanne d'Arc dimanche prochain, 10 mai. Donc je trouve que c'est un beau fait marquant et une belle mise en avant de ce que les mairies avec un maire patriote peuvent faire dans le domaine de la culture, du devoir de mémoire.
Absolument. Vous avez bien fait de le souligner. D'ailleurs, je pense qu'on n'a pas fini de le suivre, notre ami Christophe
Barthès.
Oui, parce
qu'on pourrait parler longtemps, voilà, effectivement, de ses initiatives.
Tous les trois jours, il prend une initiative qui fait polémique.
La dernière, c'est de demander au local de la CGT d'évacuer du centre-ville.
Exactement. Donc, à la CGT, surtout d'évacuer les locaux de la mairie.
Oui, c'est ça. Ce sont des locaux municipaux, absolument.
Et qui sont des locaux municipaux qui coûtent cher à la mairie, et donc ils vont aller se loger ailleurs. Voilà, c'est vrai que c'est une grande différence par rapport aux mairies et aux administrations qui fleurissent un peu partout en France. Allez, on va parler du rapport à l'oncle, et je me demandais si c'était une bombe à fragmentation.
Reste en Courtois avec Marc Baudrier et Boulevard Voltaire.
Et avec Philippe Charlès, Yves-Marie Sévillan et Gérard Gachet, en présence de Nicolas B, député européen, que je vous présenterai tout à l'heure, évidemment, en long, en large et en travers. Surtout en large. Branle-bas de combat comme un seul homme, dans un ensemble parfaitement orchestré, la même information surgit dans les médias de gauche, vous avez peut-être vu, avec les mêmes termes ou presque la même temporalité et la même erreur. Tiens, Charles Alloncle fait l'objet d'une plainte, affirme France Info, 20 minutes, Libération, Le Monde, j'en passe, la liste serait trop longue. Sauf que la plainte est déposée contre X et non contre Charles Alloncle. Curieux tout de même, cette erreur en série, ce balai d'accusations simultanées au même moment, à la veille de la publication de ce rapport très attendu. Y aurait-il eu coordination militante en amont pour sauver l'armée mexicaine de France Télévisions en déroute? C'est impossible, naturellement. Quoi qu'il en soit, la démarche d'AC anticorruption, donc cette association qui mène ce procès, se double d'une plainte contre la Gardère News qui aurait alimenter le rapporteur en toute discrétion sur son mail de l'Assemblée. La Gardère News, c'est évidemment une entité du groupe Bolloré qui comprend notamment Europe 1. Bon, sans messer bien sûr, c'est donc pour cela qu'il avait tant de succès, Charles Alloncle. C'est une fabrication de l'extrême droite, une machination. Quelqu'un dont le patronyme commence par Beau et finit par Ray, on vous laisse deviner, aurait dans l'ombre tiré d'atroces ficelles alimentant le rapporteur à l'oncle en information, qui était vrai par ailleurs, sur l'audiovisuel public en échange d'une gloire garantie à l'antenne de CNews. Un pacte faustien trahissant une nouvelle menace sur la République. Et oui, il fallait pour la gauche un complot de cette dimension pour expliquer le succès de la commission à l'oncle. Plus sérieusement, parmi les raisons évoquées du succès médiatique de Charles Alloncle, l'une plus simple semble échapper à nos observateurs très très engagés. Et si, par hasard, la commission Alloncle intéressait les Français? Si les articles consacrés à ce grand dévoilement des coulisses de notre très cher audiovisuel public, très coûteux, avaient rencontré un public, un appétit de lecture ou d'écoute, parce qu'on y apprend des choses. Cet appétit, nous l'avons constaté dans les bonnes audiences de tous les articles consacrés par Boulevard Voltaire à la dite commission. mission. Et nous ne sommes pas les seuls. Cette hypothèse est sans doute un peu terre-à-terre pour ceux qui luttent contre le grand Satan Bolloré et tous les anges du mal qui lui sont soumis, parmi lesquels, évidemment, le député Charles Alloncle. Alors, on monte des accusations opportunes. C'est bien tenté, mais hélas, cette fois, la diversion est assez énorme. Et on l'écrit avec un H. La ficelle est visible comme un cap de navire. Il s'agit de discréditer le rapporteur et son rapport explosif la veille de sa parution. De couvrir par le bruit d'une plainte qui n'a aucune chance d'aboutir l'impact d'un rapport explosif. Car ce rapport, il mine de l'intérieur un service public qui avait apparemment pas mal de choses à cacher, c'était prévisible. Le pétard mouillé du scandale d'AC anticorruption a fait long feu. On l'a déjà oublié, il en faudra plus pour couvrir le bruit des 80 recommandations, 79 en réalité je crois, recommandations contenues dans le rapport Alloncle et pour ramener le député Alloncle à l'anonymat. Est-ce que vous avez vu, lu les uns et les autres le député de le rapport Alloncle?
Oh, j'ai pas lu le rapport.
Philippe Charlez,
pas eu le temps.
550
compte tenu
pages.
De la situation internationale. oui, j'en avais pas trop là les dernières bah oui, semaines avec la situation internationale.
Voilà. Moi, on ce l'a qui vu m'a, sur tous les plateaux.
Moi, ouais. Ce qui m'a beaucoup marqué sur dans ce rapport, c'est effectivement, on va dire, la relation de proximité presque incestueuse entre le public et le privé. Donc ce qu'on appelle en fait, en mots corrects, le capitalisme de connivence. Donc je trouve que pour une gauche et un service public qui honnit le capitalisme et tout ce qui s'y rapporte, c'est un peu, on va dire, l'hôpital qui se moque de la charité. Alors quand vous me dites que le Monde n'est pas d'accord avec le rapport, forcément, puisque le propriétaire du Monde est quand même intéressé par les contrats qu'il peut avoir avec la télévision, donc ça n'est pas
Xavier Niel, qui est par ailleurs propriétaire.
Non, le Monde, c'est Pigasse qui est propriétaire du Monde. Les deux.
Un des actionnaires.
Niel, Pigasse et autrefois Berger.
Mais oui. Voilà. Le capitalisme de connivence va très loin, ouais. Puisque Monsieur Niel est quand même marié avec Mademoiselle Arnaud. Donc c'est tout ça est quand même assez intéressant. Et donc moi j'en conclurai en disant que la solution la plus transparente, c'est la privatisation. On en a déjà beaucoup discuté. Hein. Jean-François Coulon-Desart a expliqué qu'il était favorable à la privatisation, à l'exception peut-être de quelques chaînes internationales comme France 24 qui... à son avis, devait, de par sa fonction et son contenu, rester public.
Absolument. Je partage assez son avis. Yves-Marie Sévillard, alors vous avez suivi tous les débats de la commission Alloncle pour Boulevard Voltaire. Donc vous êtes vraiment le plus au courant, le plus féru. Vous avez lu, en tout cas, commenté les recommandations, hein, les 70 recommandations de Charles Alloncle. Qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça? Qu'est-ce que vous pensez de ces recommandations, surtout? Est-ce que ça vous paraît aller dans le bon sens?
Ça paraît aller tout à fait dans le bon sens, c'est-à-dire effectivement les économies, et de toute façon que l'audiovisuel retourne à sa vocation première d'indépendance, de neutralité, d'impartialité. Bon, effectivement, il a été mentionné, on a fait énormément de barouf, si je puis dire, autour de ce rapport. Certains ont mentionné, quelque part, qu'il n'était pas si monstrueux que ça. C'est-à-dire qu'en fait, il ne rappelait simplement une évidence dans l'ensemble, l'ensemble de ses recommandations, c'est-à-dire de revenir à la vocation première de l'audiovisuel public, les éléments que je mentionnais juste avant. Parce que quand on veut faire un milliard d'euros d'économie, c'est simplement une bonne gestion de l'argent public, de fusionner par exemple France 2 et France 4, France Info TV et France 24, c'est des mesures de bon sens, de bonne gestion si vous voulez. Ce qui aurait été effectivement un pavé dans la mare, c'est la privatisation, qui peut se discuter. Le Rassemblement National la propose. Or, le rapporteur Charles Alloncle a véritablement spécifié, rappelé ce qu'il interprétait comme une fausse information, de lui imputer la volonté de cette privatisation. En tant qu'allié du Rassemblement National au sein de son groupe UDR présidé par Éric Ciotti, effectivement, il estime qu'il peut y avoir des divergences. Il a maintes fois rappelé son attachement à l'audiovisuel public. Donc, si vous voulez, on a l'impression quand même de quelque chose d'équilibré.
On lui fait un faux procès.
On lui fait un faux procès. Le rapport semble équilibré, des économies, ramener un certain nombre d'obligations et de coercition vis-à-vis des journalistes au sein de l'audiovisuel public pour qu'ils gardent un esprit de neutralité et d'impartialité. Par exemple, comme proposition, c'est multiplier les éditorialistes à la radio et à la télévision.
Issus de la presse écrite.
Issus de la presse écrite pour qu'on...
C'est une très bonne idée, je trouve.
J'avais qu'on écoute effectivement pas matin, midi et soir, comme le mentionnait sur Europe 1 Caroline Parmentier, député Rassemblement National, Patrick Cohen, par exemple.
C'est ça. Non, mais surtout, ce qu'il proposait, c'était que les éditorialistes de la presse écrite, donc celui de l'Humanité, celui de l'Opinion, celui du Figaro, etc., s'expriment sur le service public, parce que du coup, on perçoit immédiatement leur ancrage, quoi.
Absolument.
On voit immédiatement d'où ils parlent.
D'ailleurs, un des éléments qui a souvent
été... Ce qui n'est pas le cas des éditorialistes de France Inter.
Ce qui est souvent rappelé, et ce que Charles Alloncle a souvent aussi rappelé par rapport à cette neutralité et impartialité, c'est que les interlocuteurs qui parlent de différents sujets, souvent on ne rappelle pas d'où ils viennent, leurs engagements militants, leur, effectivement, lorsque vous appartenez à une rédaction... confère Boulevard Voltaire, vous connaissez grosso modo la ligne éditoriale.
Absolument, d'extrême gauche. Gérard Gachet.
Ouais, moi, je voudrais revenir une seconde, si vous m'y autorisez, sur l'attitude,
vous est permis.
Sur l'attitude assez incroyable du président de cette commission d'enquête parlementaire, M. Jérémy Patrier-Leitus. Parce que tout au long et encore aujourd'hui, il a une attitude très très difficile à comprendre, puisque d'abord, pendant les auditions, on s'en souvient, il n'a pas cessé de désavouer publiquement son rapporteur, l'excellent Charles Alloncle dont on parlait, qui faisait pourtant preuve d'une connaissance assez remarquable de ses dossiers, et qui arrivait à être extrêmement incisif sans être agressif, puisqu'il ne perdait pas son calme, Charles Alloncle. Et bien donc, son président, publiquement, au lieu de... le prendre entre quatre yeux, comme on dit, entre deux séances pour recadrer les choses, le désavouer publiquement. Et puis ensuite, M. Patrier-Leitus a fini quand même par voter pour la publication de son rapport. Il était un peu obligé, quand même, moralement. Mais après avoir apparemment promis aux socialistes qu'il voterait contre ou qu'il s'abstiendrait, puisqu'on se souvient qu'une députée socialiste membre de la commission, lui a dit publiquement, ça a été enregistré, « Ah, vous nous avez bien laissé tomber !» Donc apparemment, il avait pris d'autres engagements quant à la publication ou pas de ce rapport. Et enfin, ce rapport étant publié, et effectivement, on constate que c'est un rapport intéressant, équilibré, qui n'est pas du tout le monstre qu'on nous promettait, même s'il y a des choses exigeantes à l'intérieur, eh bien après la publication, M. Patrier-Leitus reprend la parole pour désavouer à nouveau son rapporteur et se démarquer publiquement des préconisations du rapport. Moi, je trouve ça une attitude pour un président d'une commission d'enquête parlementaire. Moi, je n'ai pas le souvenir d'avoir vu ça. Et comme disait, paraît-il, Voltaire, même si on n'est pas sûr de la citation, gardez-moi de mes amis, mes ennemis, je m'en charge.
Oui, alors... J'entends bien, mais on va donner la parole à Nicolas Bay juste après. Mais moi, je suis moins sévère que vous sur Patrier-Leitus. Pas seulement parce que sa mère était journaliste et que c'était une grande journaliste que j'aimais beaucoup, avec laquelle j'ai travaillé longtemps.
J'ai un bon rapport, si mais, ça peut vous...
Qui s'appelait
J'ai un bon rapport avec M. Patrier-Leitus, qui était à un moment directeur de la communication de l'établissement public de la reconstruction de Notre-Dame. Ah, et c'est par lui que, pour le livre que j'ai coécrit sur le général Georges Lain, c'est par lui que nous avons eu d'excellentes photos sur le chantier, sur Georges Lain accueillant les visiteurs sur le chantier. Donc, on avait de bons rapports avec M. Patrier. Ouais. Mais là, son évolution récente est quand même un peu étrange.
Non, mais c'est vrai que ça a manqué sans doute de cohérence dans l'ensemble de ses prises de décision et de son comportement. Mais cela dit, je trouve qu'il a quand même laissé les débats se dérouler. Il a été président de la commission. On a eu de cette commission qui était extraordinairement explosive. Il a interrompu une audition, je crois, et pas plus. Tous les autres, il a reformulé les questions, lui a reproché, etc. Enfin, en attendant, les débats ont eu lieu. Et il a en plus voté pour la publication. Donc, quand on regarde de manière un peu, avec un petit peu de recul et d'objectivité, je trouve qu'en dépit des pressions absolument hallucinantes qui se sont abattus sur son dos, il a quand même joué son rôle et il a permis que les débats publics se déroulent, soient retransmis très largement sur les réseaux sociaux, provoquent d'innombrables débats et qu'au final, on ait un rapport de 550 pages qui n'avait jamais on avait autant plongé dans la machine France Télévisions, parce que moi qui étais longtemps journaliste média, il fallait pour ça avoir des pouvoirs d'enquête particuliers pour plonger là-dedans. Jamais un journaliste média ne peut convoquer Xavier Niel et lui poser des questions comme ça. Donc bon, voilà, c'est la petite limite.
Mais comme quoi, il y a un pluralisme également sur l'antenne de Radio France Télévisions.
Et même à l'intérieur de cette émission. Nicolas B. et après Yves-Marie Sevilla. Ouais.
Oui, non, mais je crois en effet que Charles Alloncle a fait un travail absolument remarquable. Moi, j'ai vu ça de l'extérieur, je suis parlementaire européen, je sais comment fonctionne une commission d'enquête au Parlement européen, c'est un peu différent de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Il faut d'abord rappeler qu'il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas de hiérarchie entre le président et le rapporteur, hein. C'est un point important. Ils ont chacun un rôle qui est un peu différent. Le président organise les débats avec un pouvoir de distribution de la parole, de pouvoir sur l'ordre du jour, mais le rapporteur doit... Et il l'a fait d'ailleurs, doit conserver une grande liberté, notamment dans les sujets abordés, notamment dans les investigations menées. Et Charles Alloncle a fait un travail dont tout le monde reconnaît aujourd'hui, qu'il était extrêmement précis, minutieux, il a disséqué son sujet, qui méritait de l'être et qu'il n'avait sans doute jamais été à ce point. Et il l'a fait avec en effet de la pondération, contrairement à ce qui a été dit. On a vu que la gauche considère que France Télévisions est un de ses bastions. Sans doute à juste raison. D'ailleurs, la gauche fonctionne comme ça. Quand elle n'est pas au pouvoir sur le plan politique, électoral, elle conserve des bastions dans la culture, dans les médias, dans les associations, dans les syndicats, dans les universités. Et là, elle considère que dans le paysage médiatique, l'un de ses principaux bastions, c'est France Télévisions. Et donc, quand il voit que des députés de droite s'en prennent à ce bastion en disant bah, « il coûte très cher aux Français, et puis il ne respecte pas le pluralisme, et puis il ne respecte pas le minimum de neutralité qu'on pourrait attendre », eh bien, la gauche est immédiatement sur la défensive. Charles Alloncle a été très attaqué, il est resté posé et calme, déterminé dans son travail parlementaire, et ça aboutit absolument à un rapport en effet qui est équilibré, parce que effectivement, il aurait pu en conclure que cette maison est irréformable et qu'en conséquence, il faut privatiser. Il n'a pas fait ça, il a proposé des pistes concrètes d'économie, de diminution d'environ un quart du coût que représente France Télévisions pour les Français, passant de 4 à 3 milliards, donc ça reste très raisonnable, hein, je dirais. Si on applique à la lettre les préconisations de Charles Alloncle, et encore une fois, je les salue, France Télévisions continuera de coûter quand même 3 milliards par an aux Français.
C'est
voilà,
ça.
C'est quand même pas négligeable. Bon,
c'est pas négligeable.
C'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, ce qui est intéressant aussi dans les débats, c'est qu'on a vu que finalement, ceux qui participaient de ce système France Télévisions, Delphine Ernotte bien sûr, mais aussi des gens comme Nagui, étaient finalement très sur la défensive, très gênés, très embarrassés, finalement assez conscients sans le reconnaître que leur position, que le système auquel ils participaient était très critiquable aux yeux de l'opinion publique. Et c'est quand même tout l'intérêt d'avoir ces auditions qui sont sur la place publique, c'est-à-dire retransmises en direct, en intégralité, comme ça a été fait. Et puis on a vu des gens comme Patrick Sébastien, quoi qu'on pense du personnage d'ailleurs, hein, mais qui ont expliqué aussi l'envers du décor, comment ça fonctionne à l'intérieur de France Télévisions et comment lui, qui connaît un succès certain d'audience d'ailleurs, eh bien, a été écarté sans ménagement pour des raisons purement idéologiques, parce que c'était, selon la formule devenue célèbre, l'homme blanc de, hétérosexuel de 50 ans et plus. Voilà, ces gens-là n'ont plus
maintenant,
le droit d'exister.
C'est le mâle blanc de Jean-Luc Mélenchon.
Voilà. Et donc, ce qui est intéressant dans ce travail parlementaire de Charles Alloncle, c'est que voilà, il a enfin mis au jour un certain nombre de dysfonctionnements graves. Alors évidemment, le risque, c'est que le rapport soit enterré, bien sûr, parce que il n'y a peut-être pas à ce stade de majorité pour mettre en œuvre toutes ces préconisations. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que maintenant, plus personne ne pourra dire qu'il ne savait pas. Voilà. Et on sait qu'il serait parfaitement possible de faire des économies sur France Télévisions. Et ça, c'est, je pense que c'est ce que beaucoup de Français attendent. Parce que quand ceux qui payent des impôts, et finalement tous les Français en payent d'une manière ou d'une autre, je ne parle pas que de l'impôt sur le revenu, eh bien, les Français sont en droit d'attendre que le service public de la télévision respecte un minimum le pluralisme. Ouais. Et comme le disait,
et on en est loin dans beaucoup d'émissions.
Et comme le disait Vincent Bolloré dans son audition, qui était très riche, très intéressante, eh bien, il soulignait que finalement, France Télévisions faisait exactement la même chose que les autres grandes chaînes, exactement le même type d'émission, mais dans un cas ça coûtait 0 euro au contribuable, dans l'autre cas ça coûte 4 milliards. Ouais, c'est... Il y a quand même une question à se poser.
Exactement ça. Yves-Marie Sévillard, là, sur le duo Jérémy Patrilétus et Charles Alloncle, est-ce que finalement chacun était dans son rôle et est-ce que, comment est-ce que vous avez vu le rôle notamment de Jérémy Patrilétus?
Objectivement, effectivement, en assistant au débat, je rejoins le monsieur le député. Le président était dans son rôle d'équilibrer la distribution des temps de parole et effectivement de laisser le rapporteur poser ses questions, reposer trois fois même ses questions, parce qu'effectivement c'était la spécialité de Charles Alloncle d'insister, de ne pas laisser ses interlocuteurs se dérober. Mais bon, effectivement... Sans lui jeter des fleurs, enfin justement, je ne lui jette pas des fleurs, il est resté dans son rôle. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, on va lui tisser une couronne de laurier parce qu'il a effectué son rôle. Donc c'était quand même le minimum qu'on pouvait lui demander. Moi, ce que je trouve qu'il y a un peu d'hypocrisie humaine, bon, même si c'est le grand bal politique et des parlementaires, lorsqu'il l'accuse, et ça a été une critique récurrente, Charles Alloncle, de tirer la couverture à lui, de parler l'audiovisuel public en dehors des auditions. Bon, en l'occurrence, sa part de soleil, lui, Jérémy Patrilétus, il l'a prise, parce que désormais, il est beaucoup plus connu qu'il ne l'était avant cette commission, donc lui aussi a tiré quelques marrons du feu de cette commission. Et simplement...
Mais vous avez raison, c'est peut-être plus une logique simplement de notoriété, non? C'est un peu ce que vous sous-entendez.
Ça joue effectivement souvent. Et deuxième élément pour terminer, pardon d'être long, je voudrais noter que ça va être intéressant de suivre la façon dont le Rassemblement National et l'UDR vont s'accorder et la droite nationale de manière générale dans le futur, si jamais elle accède au pouvoir. Parce que Jordan Bardella qui annonce la privatisation de l'audiovisuel public, c'est quand même un sacré morceau. Et donc c'est une chose de l'annoncer, c'en est encore une autre de gagner, c'en est encore une autre d'arriver effectivement au but. Sachant qu'effectivement, avec son allié l'UDR, il faudra composer et voir comment Charles Alloncle se positionnera là-dedans.
Voilà.
Oui, pour rebondir
Nicolas
là-dessus...
Nicolas Bay, pour conclure très rapidement.
Je pense d'ailleurs qu'il n'y a pas de vraie incohérence entre les deux positions, parce que Charles Alloncle a répondu à cette question. Il a dit, moi je propose ce qui permettrait à France Télévisions de trouver le chemin du pluralisme et d'une gestion financière raisonnable. S'ils ne font pas ce qu'il faut, c'est-à-dire s'ils ne... mettent pas en œuvre les mesures un peu fortes qui sont nécessaires, bah à ce moment-là, ils s'exposeraient en cas de majorité de droite nationale dans un an à la privatisation. Donc,
c'est
finalement,
ce qu'il dit dans Valeurs Actuelles cette semaine. Il est minuit moins le quart pour
c'est une étape intermédiaire en quelque sorte. Mais ce qui est vrai, c'est que beaucoup de Français, et je ne vous cache pas que j'en fais un peu partie, s'interrogent sur la capacité à se réformer de France Télévisions. Sauf à ce qu'il y ait une intervention politique très forte. Je ne suis pas sûr que ces gens-là aient, une capacité à se remettre en question, d'autocritique suffisante pour se réformer en profondeur.
Ce socle de béton est quand même fissuré. Et n'importe quelle entreprise soumise à ce traitement-là serait fissurée, fragilisée. Et là, on va le voir dans l'avenir. Ça me paraît évident.
On peut s'interroger aussi quand même sur la disparition totale de l'audiovisuel public français. Est-ce qu'il ne faut pas quand même conserver d'une façon ou d'une autre, même fortement réduite, une voix de la France, une voix officielle de la France dans le domaine audiovisuel?
Mais en France, est-ce que c'est utile? Moi, je pense que c'est ingérable, qu'il y aura toujours des tas de critiques, il vaut mieux la privatiser.
Il y a d'ailleurs une alternative à ça, si vous me permettez, c'est qu'il peut y avoir une chaîne publique, ou voire plusieurs, sans que ça coûte aux Français. C'est-à-dire, on peut avoir aussi on n'a pas l'habitude, on le conceptualise même pas, d'ailleurs, c'est intéressant dans notre discussion, on n'imagine pas une structure publique qui vit pas sous perfusion d'argent public. Bon, on pourrait très bien avoir une télévision publique qui fonctionne essentiellement avec des publicités pour ses ressources et qui parvient à un équilibre financier qui fait qu'elle ne coûte pas aux contribuables. Ce serait tout à fait possible. Alors, ça peut sembler presque idyllique quand on dit ça comme ça, mais pourtant, il n'y a rien qui ne s'y oppose fondamentalement.
Vous le savez. Ah bah si, il y a quelque chose qui s'y oppose fondamentalement. C'est toutes les chaînes privées qui montent au créneau et qui disent non, ne touchez pas notre fromage.
Le gâteau de publicité est à peu près constant et donc il devrait être partagé entre plus d'acteurs. Donc
voilà, exactement. Allez, on referme ce dossier, mais on n'a pas fini d'en reparler. On fera un sujet dans une de nos émissions sur la nécessaire privatisation ou pas, parce que c'est un vrai sujet qui d'ailleurs oppose la droite nationale. Hein. Privatisation, c'est non pour l'UDR et c'est oui pour le RN. Hein, et idéal, je ne sais pas où il se situe d'ailleurs là-dedans. Donc,
Position tranchée sur le sujet. Moi, je suis assez d'accord avec la position de Charles Allon qui consiste à dire il faut une réforme majeure pour pas avoir besoin de privatiser et si France Télévisions se révèle incapable de se réformer, à ce moment-là, il faudra privatiser.
Alors voilà, alors c'est intéressant parce que Bardella est plus libéral sur cette position que l'UDR. Et normalement, c'est l'inverse. On avait compris que c'était plutôt l'inverse. Allez, on va parler de l'inconscience de la gauche tout à l'heure. Haro sur un fleuron français, le groupe Total, nous en parlerons notamment avec Philippe Charlez, ici présent, cher en os, qui est notre expert en énergie. Ça sera en deuxième partie d'émission. Nous aurons, comme d'habitude, notre clin d'œil culture. On a tous préparé des choses passionnantes à voir. Mais d'abord, face à notre ami l'Algérie, l'Union européenne doit-elle agir ?
Reste en courtois avec Marc Baudrier et Boulevard Voltaire.
Et avec Philippe Charlez, Yves-Marie Sevilla et Gérard Gachet. L'information est tombée cette semaine. Elle alourdit le contentieux entre la France et deux pays du Maghreb, l'Algérie et le Maroc. 218 Français sont recherchés par la justice de notre pays. Ils seraient des fugitifs réfugiés au Maroc. Ils seraient 124 à avoir fui la justice française pour se réfugier cette fois en Algérie. Tous ces fugitifs présumés sont actuellement recherchés par la France. L'information est signée de la station RTL, je le souligne. C'est le dernier soubresaut des relations chaotiques entre les pays du Maghreb, en particulier notre ancienne colonie l'Algérie et la France. Nicolas B. Rebonjour, merci de nous avoir rejoints ce soir. On est très heureux de vous avoir. Vous êtes député européen, vous êtes vice-président du groupe des conservateurs et réformistes européens, ECR, le groupe ECR, à Strasbourg, et vice-président de la délégation à l'Assemblée parlementaire Afrique-Union européenne. Votre mouvement en France, c'est le groupe Identité et Liberté de Marion Maréchal. Voilà, les présentations sont faites pour que tout le monde sache qui nous parle. On va parler de sujets européens qui touchent aussi la France. On abordera nos relations avec l'Algérie. On va aborder la menace de l'organisation des Frères musulmans sur laquelle vous vous êtes penché. Et puis, nous parlerons aussi des dépenses de l'Union européenne vers des organismes ou des pays musulmans. Mais d'abord, quelques actualités et votre réaction à ces éléments que vous avez sans doute vus et qui touchent tous l'Algérie. Alors, le Maroc et l'Algérie, j'en parlais, accueillent près de 350 Français qui fuient la justice. Est-ce que vous aviez connaissance de ce nouveau dossier, Nicolas B ? Est-ce que ça vous surprend ? Et qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que ça veut dire des relations entre l'Union européenne ou la France d'une part, et puis le Maroc et l'Algérie d'autre part ?
D'abord, la France, malheureusement, accueille sur son sol depuis des décennies maintenant des millions de personnes qui sont originaires de ces pays du Maghreb, qui en conservent d'ailleurs la nationalité, et même quand ils ont acquis par ailleurs la nationalité française. Et lorsqu'ils commettent des actes délictuels ou criminels, souvent, le premier réflexe qu'ils ont pour échapper à la justice française, c'est en effet de tourner dans leur pays d'origine, voilà, et de se cacher en quelque sorte. Maintenant, je pense qu'il faut faire un distinguo assez clair entre l'Algérie et le Maroc. Parce que le Maroc est un pays qui se comporte comme un partenaire particulièrement stable, fiable, de confiance, avec la France et avec les pays européens d'une manière générale. Et il y a une vraie collaboration, s'agissant des questions migratoires, s'agissant des questions de sécurité, entre les services de renseignement, etc. Et donc, évidemment, il y a toujours des gens qui arrivent à échapper, à passer entre les mailles du filet. C'est ce que soulignent les chiffres que vous avez indiqués tout à l'heure. Mais je pense qu'il n'y a pas de volonté du pouvoir marocain de soustraire des délinquants ou des criminels à la justice française. Alors que s'agissant de l'Algérie, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire qu'on a un pouvoir algérien qui est francophobe, ouvertement, qui est totalement corrompu, qui est dictatorial et marxiste, et qui alimente toute la journée depuis des décennies pour masquer ses échecs complets, notamment en matière économique, le peuple algérien dans une haine, dans un ressentiment à l'égard de la France. Et la France qui, au lieu de larguer les amarres, c'est-à-dire au lieu de traiter l'Algérie comme un pays tiers, continue... et qui n'est pas d'ailleurs un pays qui se comporte en ami, continue de donner toutes sortes d'avantages pour les visas, d'aide économique, etc., à l'Algérie, qui sont totalement indus. Voilà, donc il y a une différence quand même, je pense, très importante entre les deux. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ce qu'il faut faire, c'est, je pense que c'est la fermeté dans les relations internationales, ce qui paye, c'est la fermeté, la détermination et la puissance. Et aujourd'hui, on voit que la gauche, d'ailleurs, depuis toujours, depuis la guerre d'Algérie, c'est-à-dire depuis les années 60, la gauche française, la gauche européenne, est au chevet du pouvoir algérien, parce que c'est un pouvoir d'inspiration marxiste.
La Macronie aussi. Hein.
Et ça permet d'alimenter encore et toujours le discours contre les méchants colonisateurs que nous étions. Donc ça permet de culpabiliser les Français. Et de justifier l'injustifiable, c'est-à-dire qu'on verse des sommes énormes au titre de l'aide au développement à ce pays qui se comporte comme un ennemi. Voilà, donc il serait temps d'en finir. Il faut en finir avec les accords de 1968. Il faut tout remettre à plat dans notre relation avec l'Algérie et faire preuve d'une grande fermeté et puis essayer de soutenir les combattants de la liberté. En Algérie, et il y en a, les minorités chrétiennes qui sont de plus en plus menacées par le pouvoir. Je pense aux Kabyles qui sont sans cesse...
Je pense à Boualem Sansal, évidemment.
Bien sûr. Mm-hmm. Voilà, toutes sortes de personnalités. Et puis même simplement des intellectuels, des journalistes qui aspirent simplement à pouvoir faire leur travail librement et qui subissent un régime qui est un régime qui est sans doute un des pires de la planète. Hein. Il faut quand même en avoir conscience. Et c'est peut-être pas suffisamment dit. L'Algérie est un pays qui est aussi fermé que la Corée du Nord. Mmh. Voilà. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'on continue de chouchouter, en quelque sorte, l'Algérie. Voilà. Mmh. Alors qu'il y a des pays voisins qui ont été colonisés de la même manière. Ça correspondait à une autre époque.
Il y a une forme de masochisme diplomatique.
Par la France, voilà, il y a beaucoup de pays. Par exemple, le Maroc est le contre-exemple. Le Maroc a été colonisé aussi par la France. La décolonisation s'est passée, c'est vrai, dans de meilleures conditions. Et aujourd'hui, on a des relations tout à fait apaisées. On a des partenariats économiques, des partenariats commerciaux avec le Maroc. Mais on voit que même la gauche européenne est très constante dans son engagement à la fois de soutien à l'Algérie et aussi de défiance à l'égard du Maroc. On le voit sur la question, par exemple, du Sahara occidental.
Oui, c'est ce que j'allais dire.
Quel est le territoire marocain ?
Quelle est la position du Parlement européen sur le sujet ?
Le Parlement européen, il est divisé, pour dire les choses simplement. La droite européenne considère, comme d'ailleurs ça a été reconnu par les Nations Unies, et comme c'est une réalité historique et incontestable que le Sahara occidental appartient au Maroc, est sous souveraineté territoriale du Maroc. Et d'ailleurs, c'est incontestable historiquement, puisqu'il y a des traces extrêmement anciennes de présence marocaine au Sahara occidental. Mais aujourd'hui, vous le savez, il y a le Front Polisario, qui est une organisation terroriste, qui est soutenue et financée par l'Algérie, qui est en lien avec les milices islamistes au Sahel, qui détourne de l'argent, y compris d'ailleurs de l'argent de l'Union européenne. C'est pour ça que le Parlement européen était obligé de se saisir de cette question, puisqu'il y a de l'argent européen qui est arrivé dans le camp de Tindouf au Sahara occidental. Et cet argent, au lieu d'être utilisé à des...
Sous quel prétexte cet argent et combien ?
Sous prétexte humanitaire.
Voilà, humanitaire.
Pour soutenir les populations qui sont sur place. Et la réalité, c'est que cet argent a été détourné par des organisations mafieuses en lien avec des organisations islamistes. Et il est avéré qu'il y a eu des flux financiers qui ont abouti à financer l'islamisme. Hein. Donc c'est quand même extrêmement grave. Donc je pense qu'il est temps sur ce sujet-là de dire les choses, c'est-à-dire qu'on a des partenaires autour de l'Europe, on a intérêt à avoir sur la ceinture autour de l'Europe, et notamment les rives sud de la Méditerranée, on a besoin de partenaires, et il y en a. L'Égypte se comporte en vrai partenaire de la France et de l'Europe, la Tunisie également, ça n'a pas toujours été le cas, au moment de ce qu'on appelait le printemps arabe, les islamistes étaient au pouvoir, c'était pas le cas, mais aujourd'hui le président Saïed se comporte, on l'a vu avec les accords sur l'immigration qu'il a mis en œuvre avec Giorgia Meloni, un vrai partenariat, un pays qui se comporte en partenaire politique, économique, diplomatique de l'Europe, mais il faut dire ce qui est, l'Algérie est le pays qui se comporte en toutes circonstances en ennemi, et il faut ajouter, si on fait la liste, dans les pays voisins, c'est le cas également de la Turquie, qui est exactement de la même manière chouchoutée, on y reviendra sans doute tout à l'heure, chouchoutée par l'Union européenne à coût de milliards d'euros depuis des années et qui, en toutes circonstances, défend des intérêts qui sont à l'opposé des nôtres, fait du chantage et multiplie même les attaques ouvertes, je ne parle pas seulement à Chypre, mais d'une manière générale, des démarches hostiles de développement de l'islamisme turc sur notre sol. On a vu des listes municipales, on a vu des financements de mosquées monumentales, etc. On voit bien que, les, comme toujours, d'ailleurs, l'histoire, c'est la grande confrontation entre l'Empire ottoman et l'Europe chrétienne. Et aujourd'hui, Erdogan se place dans cette logique-là. Il rêve de reconstituer un grand empire ottoman et qui est à l'offensive et, à la, et en conquête vers le Caucase, d'une part, vers l'Europe occidentale, d'autre part.
Vous avez raison de le rappeler. Yves-Marie Sévillan.
Oui, monsieur le député. La présidente de la République annonce aujourd'hui même le retour de notre ambassadeur à Alger, Stéphane Romaté. Est-ce que vous estimez que dans le bras de fer que vous évoquez, que c'est une bonne nouvelle ou qu'inversement, c'est la France qui cède la première ?
Et il y a un petit complément à cette question, puisqu'on a appris en même temps que le retour de l'ambassadeur de France, que la ministre déléguée aux armées est en Algérie pour participer aux cérémonies commémorant les événements de Sétif du 8 mai 45. Donc, est-ce que tout cela participe bien d'une politique de fermeté vis-à-vis de l'Algérie ? Je n'en suis pas totalement convaincu, mais c'est l'expert.
Je ne suis pas forcément plus l'expert qu'un autre, mais en tout cas, j'en suis pas convaincu non plus. On est typiquement dans le en même temps macroniste. Moi, je me méfie beaucoup de ces histoires de rappel d'ambassadeurs, etc. On sait que c'est largement du cinéma diplomatique. Je dis pas qu'il faut pas le faire dans certaines circonstances. Je ne dis pas d'ailleurs que dans l'histoire, ça n'a pas pu être parfois utile. Mais enfin, le petit jeu qui consiste à dire je convoque l'ambassadeur du pays avec lequel j'ai un litige de manière solennelle pour lui frotter les oreilles ou je rappelle mon ambassadeur à Paris parce qu'il y a un problème. Bon, tout ça, si ça n'est pas suivi d'actes concrets et opérationnels, ça n'a aucune efficacité.
Il y en a eu des actes concrets, il y a eu des voyages diplomatiques dans lesquels on s'est couché, on a rampé sur des kilomètres en allant se prosterner devant le monument des martyrs algériens.
La vérité, c'est que si on veut faire céder le pouvoir algérien, il y a quelques leviers qui doivent être utilisés. D'abord, la remise en cause des accords de 68 et la fin des visas octroyés facilement aux Algériens. Ensuite, et donc une diminution drastique des titres de séjour, ça c'est le premier élément. Deuxième élément, le gel des avoirs des dirigeants algériens sur le territoire national. Ouais,
ils sont considérables à Paris, par
auxquels on peut ajouter d'ailleurs la fin de tous les avantages, les aides, les soins dont bénéficient d'ailleurs les dirigeants algériens depuis des décennies. Ils sont tous soignés dans les hôpitaux français, etc. On pourrait mettre fin à cela. Ça peut sembler anecdotique ou symbolique, mais c'est pas du tout négligeable. Et puis, la fin des aides financières. Voilà. On n'a aucun préjudice, nous Français, à une rupture totale ou quasi totale des relations économiques et commerciales avec l'Algérie. C'est l'Algérie qui en pâtirait. Donc on a des leviers, on a des outils.
On leur prend un peu de gaz, c'est ça que va nous dire Philippe Charlez.
Oui, alors ça, là, Philippe est un spécialiste, c'est vrai, mais j'aurais tendance à dire que c'est l'Italie qui se retrouverait davantage en difficulté que nous, parce qu'ils sont la porte d'entrée du gaz algérien sur le continent européen, mais la France elle-même n'a pas une très grande dépendance au gaz algérien. Et si j'ai bien compris, le peu de dépendance que nous avons sur le gaz algérien pourrait facilement être substitué par un autre
gaz venant d'autres pays. Rapidement, faire un peu le schéma. Ouais. Donc la sortie du gaz algérien était double, elle était triple. Il y avait un gazoduc qui traversait la Méditerranée, qui arrivait directement au sud de l'Espagne. Il y avait un gazoduc qui traversait le Maroc et qui arrivait au sud de l'Espagne, et un autre gazoduc qui arrive au sud de l'Italie. Et donc, les deux gazoducs qui arrivent en Espagne aujourd'hui sont pratiquement assez peu utilisés. Donc, celui qui traverse le Maroc est toujours utilisé. Celui qui traverse et arrive directement en Espagne n'est plus utilisé parce que l'Espagne était un des premiers pays qui s'est prononcé en faveur du Sahara espagnol pour le Maroc, enfin s'est mis du côté du Maroc, alors que l'Italie, effectivement, quand il y a eu la crise russe, a beaucoup augmenté ses importations de gaz. Donc nous ne sommes plus dépendants des importations de gaz par gazoduc, on est quand même encore dépendants des importations de gaz naturel liquéfié en provenance d'Algérie.
Mais c'est quand même un petit fournisseur, 5%
j'ai en
mémoire.
Ça reste un petit fournisseur,
non, oui. C'est pas 5%?
Oui, mais enfin, disons qu'aujourd'hui, compte tenu de la fermeture du détroit d'Ormuz, le marché du gaz naturel liquéfié est fortement tendu, et donc ça peut quand même avoir son intérêt. Mais l'intérêt est faible par rapport à la situation, je suis tout à fait d'accord avec vous.
Voilà, tout va bien, nous sommes tous d'accord. Alors, nos auditeurs nous disent, et rectifient, et je crains qu'ils n'aient raison, vous utilisez le langage de nos ennemis, nous dit un auditeur, cessez d'utiliser le terme de colonisation, ce qui, dans le cas de l'Algérie, est malvenu, il faut parler de présence française. Ils n'ont pas tout à fait tort, il a même raison, un autre auditeur nous dit, l'Algérie n'a jamais été une colonie. Voilà, donc c'est vrai que c'était des départements français.
Un département. Hein,
et donc, à ce titre, c'était différent du Maroc, qui était un protectorat, si j'ai bonne mémoire, c'est ça. Hein, voilà, et justement, un auditeur nous dit sur le Maroc, il ne faut pas oublier que le Maroc est un gros producteur de cannabis dans la vallée du Rif. C'est vrai que, ça pour un ami, c'est pas tout à fait le genre de cadeau...
On importe beaucoup de fruits en provenance du Maroc.
Bien sûr.
Ouais.
On peut voir sur les marchés qu'il y a énormément de fruits qui sont en provenance du Maroc.
Voilà.
Et des phosphates aussi.
Des fruits et des phosphates, très bien. Mais aussi de la drogue. Bon, voilà, autre sujet, ça concerne aussi l'Europe. Il y a une enquête qui a été menée par Défense News, qui est un magazine, qui a été relayé, cette enquête, par Le Parisien le 6 mai. Elle met en lumière le rôle de l'Algérie, qui est une alliée de longue date de la Russie, je vais vous faire réagir là-dessus, Nicolas B, comme plaque tournante d'une flotte aérienne fantôme qui serait en réalité au service des intérêts militaires russes. Et Défense News aurait compté 167 vols cargo suspects qui sont affiliés à l'armée russe à destination de l'Algérie entre mars 2025 et avril 2026. Est-ce que, en clair, l'Algérie aiderait en sous-main Moscou à contourner les sanctions internationales et est-ce que ça peut changer la donne des relations entre l'Union européenne et la France, d'une part, et l'Algérie, de l'autre, ce type d'éléments?
Oui, c'est des informations qu'il faut prendre avec un tout petit peu de prudence, mais d'être vérifiées, mais il est tout à fait probable que la Russie a réactivé ces dernières années des liens avec l'Algérie parce qu'elle a besoin de trouver des alliés sur une scène internationale où elle est fragilisée. Et ce qui est vrai, c'est que la Russie d'avant, c'est-à-dire l'Union soviétique, a été le principal soutien, l'un des principaux soutiens internationaux du pouvoir algérien.
De Moumediene à l'époque.
Exactement. Donc il n'est pas du tout impossible que ce phénomène existe et que la Russie essaye. On voit bien qu'aujourd'hui, la stratégie aussi de Donald Trump consiste à fragiliser tous les alliés de la Chine et de la Russie sur la scène internationale, le Venezuela, l'Iran, etc. Donc il n'est pas surprenant que la Russie essaye de contourner ces difficultés en renforçant ses liens avec des pays qui sont un peu ses alliés naturels, historiques en tout cas.
Allez, encore une petite question d'actualité. Vous avez posé une question à la Commission européenne, Nicolas B, avec demande de réponse écrite. Depuis l'indépendance de l'Algérie en 1962, les autorités algériennes portent atteinte de manière récurrente, dites-vous, aux droits fondamentaux, en particulier à l'égard de certaines minorités, notamment les Kabyles et les chrétiennes. On en parlait tout à l'heure. La liberté d'expression est faible là-bas, des arrestations arbitraires. Vous dites que la liberté de religion est gravement compromise. 47 églises protestantes ont été fermées depuis 2017. On ne parle même pas de notre otage là-bas, Christophe Glaise. Or, l'article 2, dites-vous, de l'accord d'association entre l'Union européenne et l'Algérie stipule que le respect des droits de l'homme et des principes démocratiques constitue un élément essentiel de cet accord. De fait, il ne paraît pas le mieux respecté, cet article-là. Est-ce que vous avez reçu une réponse de l'Union européenne?
Non, je pense que j'en recevrai une, mais ce sera sans doute une réponse de langue de bois dont la Commission européenne a le secret. on voit bien sur cette affaire que du côté de Ursula von der Leyen et de la Commission européenne, il y a toujours une attitude à géométrie variable. C'est-à-dire, lorsque des États membres souverains comme la Hongrie par exemple, mettent en place une législation qui déplaît à Bruxelles, Bruxelles brandit les valeurs de l'Union européenne, une espèce de vaste fourre-tout mal défini, défini par la Charte des droits fondamentaux, qui permet d'intervenir dans des domaines de compétences des États membres, des domaines qui ne sont pas normalement des compétences européennes. Voilà, donc exemple, Orban fait une loi contre la propagande LGBT dans les écoles, aussitôt la Commission européenne se jette sur lui, fait du chantage sur les fonds européens, non seulement menace, mais ne verse pas les fonds européens dus à la Hongrie, à cause d'une législation qui pourtant relève strictement de la souveraineté nationale hongroise et que normalement l'Union européenne n'a pas à regarder. Et puis à l'inverse, lorsque un pays comme l'Algérie viole de manière évidente, flagrante, les termes d'un accord officiel d'association entre l'Union européenne et ce pays, eh bien, à ce moment-là, on détourne le regard, on laisse passer et on explique que, voilà, on a pris langue sur le plan diplomatique et puis, en fait, ça n'aboutit à rien. Donc, on voit qu'il y a un vrai deux poids deux mesures et c'est lié au fait que, finalement, il y a des idéologues en grand nombre. Hein, à Bruxelles, vous avez 34 000 fonctionnaires dans les bureaux de la Commission européenne, mais parmi eux, il y en a qui ont un agenda politique, et c'est ce qui explique d'ailleurs toutes sortes de dérives. Hein. C'est ce qui fait, par exemple, que vous avez des associations ouvertement islamistes qui ont été financées sur fonds
bien
européens,
sûr,
qui avaient pignon sur rue dans les immeubles de la Commission européenne, qui avaient accès direct aux directeurs généraux et voire aux commissaires européens eux-mêmes, etc. Des choses absolument invraisemblable parce que finalement il y en a beaucoup qui sont qui ont un agenda idéologique qui consiste finalement à affaiblir tout ce qui constitue notre identité européenne chrétienne, enfin principalement chrétienne, grecque, latine, chrétienne, au profit d'une vision d'une Union européenne qui ne serait qu'une étape vers le village global, c'est-à-dire non pas on constitue à l'échelle continentale les protections qui existaient autrefois à l'échelle nationale.
C'est très important, ça, ce que vous dites.
C'est comme ça que l'Union européenne s'est construite. Au début, on nous a dit, on va faire le marché commun, on abaisse les droits de douane, les protections économiques entre les pays européens, mais en contrepartie, on fera du protectionnisme extérieur. Et puis, ils ont abaissé les droits de douane à l'intérieur, on a fait le marché commun, et ils n'ont jamais voulu faire les protections extérieures. On a multiplié les accords de libre-échange avec le monde entier, et on continue d'ailleurs à le faire. Bon. Donc, on se vit comme un espèce d'espace ouvert, comme un terrain vague propice au libre-échange. Pour les frontières terrestre et pour la question des flux d'êtres humains, ils ont procédé exactement de la même manière. On a fait Schengen en 1996, on va faire un espace de libre circulation à l'intérieur, avec toutes sortes de conséquences, parce que la libre circulation, c'est très bien pour les hommes d'affaires et les touristes, mais enfin, c'est aussi les terroristes, les criminels, les armes, etc. Hein. C'est pas neutre. Mais en contrepartie, nous disait-il, on va renforcer les frontières extérieures. Ils ont abaissé les frontières nationales et au lieu de renforcer les frontières extérieures, ils tapent sur les doigts des dirigeants qui ont le courage de protéger efficacement leurs frontières extérieures, de refuser l'immigration clandestine, etc.
Fabrice Leggeri pourrait en parler.
Exactement.
L'ancien patron de Frontex.
Absolument. Et lui, Fabrice, a voulu utiliser Frontex comme un vrai corps de garde-côte et de garde-frontières européens. Et aussitôt, la Commission européenne, relayée par les ONG et tout, ont organisé une véritable cabale contre lui. Et il a fini par être écarté de la direction générale.
Il est même poursuivi pour des faits de l'époque, pour actes de torture envers des migrants, etc.
Absolument,
c'est incroyable.
Ce niveau, alors, il est aujourd'hui, je le précise, député européen à Rassemblement National. Yves-Marie Sévillan.
Oui, je voulais revenir très rapidement sur la question de l'Algérie. Nicolas Bay, le Rassemblement National a beaucoup dénoncé l'inaction de l'ancien ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, dont effectivement le reproche était simplement son action passe par la parole uniquement. Est-ce que vous pensez qu'on a gagné au change avec Laurent Nunez et du coup, est-ce que c'est bonnet blanc ou est-ce qu'on peut regretter tout de même d'avoir un ministre de l'Intérieur qui avait des propos fermes vis-à-vis du pouvoir algérien?
Moi, je pense que dire la vérité est utile lorsque c'est suivi des faits, mais c'est utile en soi. Moi, je pense que ce qu'a fait Bruno Retailleau, le peu qu'il a fait et ce qu'il a dit lorsqu'il était place Beauvau, a été utile pour ouvrir les yeux des Français. Et surtout pour, comment dire, pour en finir avec une espèce de grand mensonge. Parce que les Français, en réalité, sont lucides. Ils savent très bien que l'Algérie se comporte comme un pays ennemi de la France. Mais il y avait une espèce de tabou qui nous interdisait, au nom justement du passé, de la présence française en Algérie pendant 130 ans, eh bien, on n'avait pas le droit de dire du mal de ce pays et surtout de ce pouvoir, parce qu'il ne s'agit pas tant de dire du mal, le peuple algérien, il subit largement aussi le pouvoir
bien
en
sûr.
Place. Hein,
encore
depuis,
plus que quiconque.
Depuis des décennies, exactement. Mais donc, je pense que les propos de Bruno Retailleau, de clarté et de fermeté lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, ont été très bénéfiques, très utiles. Voilà. Mais Ce qui aurait été souhaitable, c'est que ce soit suivi des faits. Maintenant, si on veut être tout à fait honnête, c'est ce que j'allais dire. Je pense que Bruno Retailleau en avait sans doute la volonté, mais que quand vous êtes ministre de l'Intérieur français et que vous êtes suivi ni par le président de la République, Emmanuel Macron,
ni par le Premier ministre,
ni par le ministre de la Justice, ni par le ministre des Affaires étrangères, ni par le ministre de la Défense, sur un sujet comme celui-là, en réalité, vous ne pouvez pas faire grand-chose.
Ni par l'Assemblée nationale, voilà. même.
Et sans majorité à l'Assemblée nationale. Donc. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça ne fait que reporter le problème à plus tard, et plus tard, on va devoir agir contre ce pouvoir algérien qui nuit à nos intérêts vitaux et de manière extrêmement agressive. Et quant à Laurent Nunez, on voit bien sur ses orientations politiques actuelles que
le ministre de l'Intérieur,
c'est clairement par rapport à Retailleau un coup de barre à gauche. Nunez, on le voit, nous explique par exemple que le communautarisme, le séparatisme en France, c'est pas tellement le problème de l'islam. Hein, il y a toutes sortes d'autres communautés concernées. Il faudrait qu'il nous explique. D'abord, ça m'intéressait qu'il nous explique, qu'il argumente un petit peu, parce qu'il ne suffit pas de dire qu'il y en a d'autres. Il s'agirait d'indiquer lesquels.
Il a très clairement évoqué l'ultra-droite.
Sous quelle forme, voilà. Oui, ce qui est absolument lunaire, parce que qu'il existe des groupuscules d'ultra-droite, on les appelle quand on veut, un peu turbulents, comme il y en a toujours eu d'ailleurs, c'est bien possible. Mais enfin, personne ne voit ces petits groupes comme une menace quelconque pour la France et pour la République. Il faut quand même être un peu sérieux. Donc le fait que Nunez utilise ce type d'argument montre en réalité qu'il veut échapper au débat de fond. Le débat de fond, c'est évidemment le communautarisme, le séparatisme islamiste sur notre sol, qui est une réalité et qui est surtout une réalité prégnante. Et on l'a vu d'ailleurs.
Et qui est la vraie cause de la faiblesse française vis-à-vis de l'Algérie.
Oui, bien sûr. En réalité, malheureusement, beaucoup des politiques étrangères de la France, notamment dans le monde arabo-musulman, depuis des décennies, sont guidées par une préoccupation permanente de politique intérieure et de sécurité intérieure. Et ça, c'est dramatique. Ça veut dire qu'on a renoncé à une forme de souveraineté et de liberté sur la scène internationale parce que nous avons accueilli sur notre sol des millions de personnes qui, pour une partie significative d'entre elles, nous détestent et constituent donc une menace directe sur notre sécurité.
Absolument, c'est pas inutile de le rappeler toujours. Allez, dernière question et réponse très très courte, et puis après, on parlera des frères musulmans. Je voudrais qu'on parle de manière un peu approfondie de ce dossier que vous avez bien épluché, étudié, vous nous direz pourquoi, hein, vous avez organisé un colloque. Mais simplement, il y a eu une mesure proposée par le député Charles Rodouel d'allongement de 90 à 210 jours des durées de rétention des étrangers coupables avant expulsion. Elle a été votée par le Rassemblement National. Hein, on est au Parlement de Paris, là, pour le coup. On quitte l'Union européenne, mais c'est un sujet européen aussi. Est-ce que c'était une vraie avancée hein, pour vous? Est-ce que en Europe comme en France, la nécessité de lutter contre l'immigration commence à faire consensus?
Il y a en tout cas de plus en plus de gouvernements européens qui refusent cette espèce de laxisme migratoire qui consiste à avoir des millions de personnes qui entrent sur le continent européen sans y être invitées, soit en entrant illégalement, mais soit aussi, il faut l'expliquer, en entrant de manière légale avec des visas sur une courte période, etc. Et puis ensuite, ils oublient de repartir. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont sur le sol européen, ils se maintiennent illégalement, même s'ils sont
distraits.
On parle souvent de ceux qui arrivent par la route des Balkans, par les routes maritimes vers l'Espagne, l'Italie ou la Grèce. et ça existe, hein, et c'est pas négligeable, mais bien souvent, l'immigration clandestine, elle arrive en France tout confort en avion, faut quand même dire les choses, hein, tout confort en avion, et simplement, ils ont le droit d'être là sur notre territoire pendant un mois, deux mois ou trois mois, et au bout de trois mois, ils restent. Mmh. Et ensuite, ils ne sont, et c'est le problème de fond, ils ne sont quasiment jamais expulsés. En France, on a à peu près 10% des expulsions qui sont effectivement mises en œuvre. Et,
c'est ça.
Et encore, on sait que...
90% qui sont décidés, voilà, et pas mises en œuvre.
90% qui sont, décidés par la justice administrative et qui ne sont pas mises en œuvre. Et puis, n'oublions pas que sur les 10% qui sont mises en œuvre, il y en a une partie qui reviennent. Il ne faut pas le négliger non plus. Les frontières européennes étant trop souvent des passoires, eh bien, il y en a beaucoup qui sont expulsés, mais qui parviennent à revenir. Donc, il y a un problème très grave. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de pays, on l'a vu avec des pays du Nord. Par exemple, la Suède a été en première ligne du laxisme migratoire pendant des décennies. Aujourd'hui, c'est un des pays les plus durs. Grâce d'ailleurs à nos alliés des démocrates suédois qui font partie de la coalition gouvernementale, qui soutiennent la coalition gouvernementale pour cette politique de fermeté. Moi, je crois que pour répondre à votre question sur, le délai de rétention administrative, c'est évidemment un élément important, mais pas du tout suffisant. Parce que le problème, ce n'est pas d'avoir des gens qu'on peut mettre plus longtemps en rétention administrative parce qu'on on attend le laissez-passer consulaire qui permet de les renvoyer dans leur pays. Mmh. Parce qu'en réalité, il y a beaucoup de pays qui n'accordent pas le laissez-passer consulaire. Et donc, même si on les garde pendant 6 mois ou pendant un an...
C'est une mesure symbolique.
D'abord, ça va être compliqué, ça va nous coûter cher, parce qu'il y en a quand même beaucoup.
Ça coûte très cher, 600 euros par jour.
Bien sûr, parce qu'en plus, c'est un régime de rétention qui n'est pas un régime carcéral, et donc qui obéit à d'autres contraintes et qui coûte assez cher au pouvoir public. Bon.
Très cher.
Et donc, le problème n'est pas seulement la rétention administrative, c'est comment on fait pour contourner l'obstacle du laissez-passer consulaire quand il n'est pas accordé. Il y a beaucoup de pays, à commencer par l'Algérie au passage, qui n'accordent pas le laissez-passer consulaire. Il y a beaucoup de pays qui n'ont pas une organisation de l'État performante et qui n'accordent pas le laissez-passer. Donc, ce qu'il faut faire, c'est ce qu'ont fait certains pays, et c'est parfaitement efficace, c'est de sous-traiter à des pays tiers le soin de gérer ces personnes. On peut parfaitement avoir un pays sur le continent africain, par exemple, avec lequel on a un accord qu'on paye pour ça, et qui récupère tous nos clandestins et charge à ce pays de gérer ensuite le retour de ces clandestins dans leur pays d'origine. Voilà. Et sachant que les pays d'origine sont divers. Alors, c'est concentré sur quelques pays.
C'est pas une démission de notre autorité vis-à-vis d'un pays qui nous méprise.
Oui, le problème, c'est
de confier à d'autres le soin de faire plier l'Algérie parce qu'on n'y arrive pas.
Non, c'est une manière de contourner l'obstacle, en réalité. C'est qu'est-ce qui fait qu'il y a beaucoup de clandestins qui viennent ou se maintiennent en France? Bien, c'est parce qu'ils ont justement la certitude de ne pas être expulsés, et même s'ils font l'objet d'un arrêté d'expulsion, et même s'ils vont en rétention administrative, ils espèrent encore, à juste raison d'ailleurs, malheureusement, qu'il n'y ait pas de laissez-passer consulaire et que l'expulsion ne soit pas effective. Bon, voilà. Si on met en œuvre un système différent, avec des pays tiers avec lesquels on a des partenariats qui gèrent l'immigration, le retour de ces clandestins, eh bien, ça les dissuadera de venir en France. Parce qu'ils sauront qu'ils ne resteront pas sur le territoire. Et j'ajouterais d'ailleurs que ce n'est pas simplement sur les flux sortants qu'on peut mettre ça en œuvre. On peut le faire aussi sur les flux entrants, exactement de la même manière. C'est d'ailleurs le sens des partenariats établis par l'Italie de Giorgia Meloni avec l'Albanie, avec la Tunisie dont je parlais tout à l'heure, ou avec l'Égypte. C'est-à-dire que les demandes d'asile les demandes d'asile vers le continent européen, que ce soit des Soudanaises, des Érythréens, etc., se fassent dans des consulats Schengen des pays sur le continent africain ou au Moyen-Orient.
Refus est automatique.
Exactement. Et donc, ils font la demande là-bas et si elle n'est pas accordée, ils ne peuvent pas venir en Europe. Et accessoirement, ça aura une autre utilité, c'est que ça tarirait les flux de clandestins et donc ça éviterait les morts en Méditerranée et ça éviterait les mafias et les passeurs qui s'engraissent sur ce commerce sordide.
Allez, on va parler des frères musulmans. Je rappelle que nous sommes avec Nicolas Bay. Vous êtes député européen, vice-président du groupe des conservateurs et réformistes européens à Strasbourg et vice-président de la délégation à l'Assemblée parlementaire, la délégation Afrique-Union européenne. On en parle tout de suite.